Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Angèle, elle est assistante sociale en milieu carcéral. Elle a occupé plusieurs postes, eu plusieurs statuts et casquettes. Elle a pu affiner ses connaissances et ses compétences au fil des années pour accompagner les détenus pendant leur incarcération, mais aussi et surtout dans leur réinsertion. Dans cet épisode, Angèle nous laisse entrevoir une réalité qu'elle perçoit de son travail dans cet endroit clos où prendre soin de soi et avoir des projections vers l'avenir sont deux sujets bien difficiles à aborder. Je vous laisse découvrir son témoignage qui nous éclaire sur ce qui existe en prison comme service et comme intervenant extérieur. Belle écoute à vous.
Bonjour Angèle et merci d'avoir accepté mon invitation sur La Voix des Invisibles. Je vais te laisser te présenter, nous dire ta formation initiale et depuis quand tu es dans le social.
Ouais. Bonjour et merci de m'écouter. Du coup, je m'appelle Angèle, j'ai une formation d'assistante de service social et je suis diplômée depuis 2015.
Ok. Qu'est-ce qui t'a amenée à choisir d'œuvrer dans le social ?
Alors, moi, c'était un métier dont j'avais vraiment jamais entendu parler parce que peut-être qu'on peut estimer que c'est une chance de jamais avoir rencontré d'assistante sociale dans ma jeunesse et dans mon parcours familial. Au lycée, qui est la période un petit peu où on nous demande de choisir ce qu'on a envie de faire, je me suis pas du tout dirigée vers le social. J'aimais beaucoup la matière économie et sociale. Et du coup, je me suis dirigée vers une fac de langue, parce que j'aimais les langues, et ensuite vers un BTS commerce international, parce que j'aimais les voyages. Jusque-là, ma réflexion, ça n'avait pas
été.
Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon année de fac de langue, mon BTS commerce international, que j'ai obtenu. Et c'est plutôt suite à ce BTS où, en fait, je me suis dit que le côté rapport à l'argent ne me convenait pas. Et c'est vraiment là où j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Et c'est ma sœur, qui est quelqu'un de très, très important pour moi, qui, elle, dans son parcours, par contre, je crois, en avait rencontré une, et qui m'a demandé si je connaissais ce métier. Et vraiment, je le connaissais pas du tout, donc je me suis renseignée. Ça a créé dans mon parcours une année de césure où, du coup, j'ai voyagé, puisque c'était quelque chose qui était important pour moi. J'ai fait une mission d'aide humanitaire à Madagascar, et pendant ce temps-là, je me suis inscrite au concours d'assistante sociale. J'avais un petit peu lu sur internet, mais j'étais pas complètement experte du métier, de ce que ça impliquait, etc. Et puis quand je suis rentrée de voyage, du coup, j'ai eu le concours d'entrée et j'ai commencé ma formation, mais vraiment dans quelque chose de complète découverte. J'avais vraiment pas les éléments et pas les enjeux avant de commencer la formation.
D'accord. Tu fais ta formation dans quel secteur géographique en France ?
Dans le sud de la France, à Marseille.
Dans le sud de la France. Ok, ça marche. Quels sont un peu tes premiers ressentis, justement, quand tu arrives dans cette école ? Est-ce que très vite, tu t'y retrouves ? Tu rencontres des personnes avec qui ça matche ? Enfin, voilà, quelle est un peu l'ambiance de ton arrivée là-bas ?
Oui, quand j'arrive, donc déjà c'est une école associative, donc je me retrouve sur plein de valeurs, je rencontre des formateurs qui sont super intéressants, j'apprends plein de choses. Il y a un aspect super positif où je rencontre des gens, des personnes avec qui je suis encore très proche aujourd'hui et avec qui on a partagé plein de choses. Et j'ai aussi un petit peu une découverte d'un aspect un peu plus négatif. Parce que du coup, j'avais des représentations totalement positives sur la profession et sur les étudiants sur les personnes qui faisaient les études d'assistante sociale ou d'éducateur spécialisé. Et malgré tout, dans ce parcours de formation, je rencontre des gens merveilleux et aussi des personnes qui sont beaucoup dans le jugement. Et ça, c'est un peu une chute, c'est un peu pas évident. Enfin, je le comprends pas trop sur le moment. Donc, c'est un peu ambivalent comme ressenti au début du parcours de formation. Mais par contre, en termes d'apport, de ce que je découvre en formation, ça, c'est hyper riche et je me reconnais beaucoup. Je suis très, très intéressée par tout ce qui se passe, que ce soit le temps de stage qui va venir ensuite ou les travaux de groupe, la question du territoire qui arrive déjà en première année. Ça m'intéresse beaucoup.
Ok, d'accord. Dans quel milieu tu fais tes stages? Est-ce que tu choisis ou en tout cas, voilà, dans quel lieu de stage tu décides d'aller?
Alors oui, tout au long du parcours de formation, j'ai eu la chance de choisir mes stages, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. En première année,
oui, c'est pour ça que je savais pas trop comment formuler.
En première année, je suis en MDS, donc Maison Départementale de la Solidarité, okay. Qui sont du coup des petites des structures du conseil départemental. C'était très formateur. Je suis très contente d'avoir fait ce stage en première année parce que du coup, c'était ce qu'on appelle la polyvalence de secteur, donc des structures qui reçoivent vraiment le tout venant, un public très diversifié avec des demandes très très diverses. Et j'ai une référente de stage, je suis un petit peu fascinée par elle parce que j'ai l'impression qu'elle sait tout, qu'elle retient tout. Et moi, je suis un petit peu noyée dans ce flot d'informations, que ce soit les situations des personnes ou les dispositifs. Et j'ai un souvenir où elle me fascine un peu, cette assistante sociale. Elle sait tout, elle retient beaucoup des personnes, d'entretien en entretien. Elle a pas besoin de tout noter. Et à chaque fois qu'on revoit les personnes, elle se souvient beaucoup de la vie des gens, enfin des personnes qu'elle reçoit. Et en plus, elle a tous ces dispositifs en tête pour pouvoir au mieux accompagner les personnes. Et ça me fascine. En tout cas, j'ai ce souvenir. Je continue sur les autres stages.
On peut continuer, mais effectivement, il y a des personnes comme ça, on se dit waouh. En fait, oui, elles ont quelques années d'expérience, donc on comprend après. Oui. Mais les premières fois, ça impressionne un peu.
Ouais, j'étais très impressionnée. Okay. Et puis, elle était très. Elle était pédagogue et elle voulait me transmettre beaucoup. C'était une chouette assistante sociale. Mais du coup, moi, je paniquais très vite. J'ai ce souvenir où j'étais plus jeune, j'avais moins confiance en moi. Et elle me faisait des espèces de petites interros où elle me posait des questions, pas tant sur la vie des personnes, mais sur les dispositifs. Et ça me paniquait. J'ai un souvenir, voilà, ambivalent, pareil, dans quelque chose de très positif et quelque chose où j'étais très stressée. Mais avec le recul, c'était vraiment formateur. Voilà. Et ça, c'est mon entrée. Ouais, c'est vraiment le stage de première année, en plus la découverte. Et j'y reviendrai plus tard, mais j'ai commencé cette année à accompagner des étudiants en école de travail social. Et du coup, j'ai à cœur de me rappeler comment j'étais en première année pour être indulgente en fait, la première année.
Ouais, bien
parce
sûr.
Que c'est pas rien quand même de débarquer dans ce secteur.
C'est vrai. Puis quand on n'a pas d'idée, c'est une grosse découverte. Ce stage te freine pas? Enfin, en tout cas, tu ne dis pas non, c'est pas fait pour moi. Non, tu.
Ah non. Mon but c'était d'être comme cette assistante sociale. C'était vraiment mon objectif. Elle était très forte et je voulais être comme elle. Vraiment, j'en étais là.
Bon, ok. Ton stage de deuxième année, tu le diriges vers quoi?
Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger, comme j'aime le voyage, okay. Et j'ai pu réaliser mon stage de deuxième année du coup au Canada, à Montréal. En plus, okay. Quand on s'intéresse un peu au travail social, on sait que le travail social au Canada, enfin en tout cas au Québec, a une vision très collective du travail, sur le pouvoir d'agir des personnes, etc. Donc, j'apprends beaucoup durant ce stage qui se passe dans une cafétéria communautaire. On pourrait assimiler ça au Resto du Cœur en France. Donc, je suis avec d'autres personnes de mon école, des éducateurs notamment, spécialisée. Et on fait un stage, donc on est 3 étudiants de l'école à aller sur la même structure à Montréal.
D'accord. Et tu pars pas toute seule?
Non. Non, non, ça aurait été difficile. Donc on part ensemble, on est très très bien accueillis. C'est super agréable de commencer le stage dans cette cafétéria communautaire. Et c'était très agréable aussi de découvrir une structure, ça m'a un peu marqué d'ailleurs, une structure où les personnes qui viennent ont des temps de vie, enfin partagent des repas, parce que du coup c'est le but de la structure. Et c'est un peu ma découverte d'un lieu de vie, ce qui est très différent du coup de mon stage de première année où les personnes viennent solliciter une aide, un accompagnement, mais pour des demandes ponctuelles ou pas, ça peut être de l'accompagnement, mais en tout cas elles viennent pas partager un moment. C'était très différent et ça j'ai beaucoup D'accord. beaucoup aimé.
Est-ce que tu avais des représentations sur le travail social au Canada, parce qu'on a tous un peu, enfin en tout cas pour ma part, en représentation de se dire ils sont plus en avance, ils ont d'autres méthodes, c'est plus du collectif. Est-ce que tout ça, toi, tu l'observes, tu le vérifies, ou en fait non, pas forcément?
Alors, c'était une vision pas complètement globale, mais je peux parler que de l'expérience que j'ai eue dans cette cafétéria communautaire, où clairement la place du collectif, elle était complètement installée. Il y avait même beaucoup plus de temps collectif que de temps d'accompagnement individuel. Il y avait une assistante sociale pour toute la structure qui accueillait des dizaines, voire des centaines de personnes à manger tous les jours. Donc oui, sur la question du collectif...
Ok, d'accord, c'était grande ampleur, quoi.
Oui, ouais, c'était vraiment grand. Et la structure était située dans un quartier où il y avait quand même beaucoup de précarité. Donc j'ai été, c'était comment dire, la place du collectif, elle était clairement présente. Après, c'est vrai que toute la première année, on nous parlait beaucoup du Canada, de l'avancée qu'il pouvait y avoir sur le travail social. Notamment la notion d'empowerment qui était centrale dès le début de la formation, donc ce développement du pouvoir d'agir des personnes. Et là, si je suis très honnête, je sais pas si je peux dire que je l'ai plus vu à ce moment-là, à ce stage, que dans mon expérience professionnelle en France. C'était quelque chose qui était important, mais qui était pas forcément plus central, sachant que je pense que ces dernières années en France, c'est quelque chose qui tient à cœur quand même les professionnels dans pas mal de structures. Donc peut-être que, disons, il y a 15-20 ans, le Canada avait beaucoup d'avance sur cette question, et peut-être qu'on les a rattrapés, je ne sais pas.
Peut-être une petite longueur d'avance. Ok, peut-être. D'accord. Tu reviens du coup... En France, après ce stage, est-ce que tu vois les choses un peu différemment dans ta formation? Est-ce que ton choix de stage de troisième année est orienté aussi par rapport à ce que tu as vécu sur le stage 2?
Non, je dirais que mon stage de première année, il était orienté pour le coup dès le début de la formation, parce que c'est sur la question de la psychiatrie, qui est une question qui, je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais m'intéressait depuis le début du parcours, voire avant mon parcours de formation. Et du coup, dès mon entrée en formation, je savais que je voulais travailler en psychiatrie ou au moins faire mon stage de troisième année. Donc, c'est pas vraiment mes précédents stages qui m'ont guidée vers ce secteur. C'était un souhait de début de formation et les formateurs m'avaient... Exactement. Et les formateurs m'avaient dit que c'était mieux de garder le secteur de la psychiatrie, entre guillemets, pour la fin de formation, plutôt que le début.
Ok. Et en plus, la fin de formation, c'est un stage long, donc ça permet vraiment de s'installer dans quelque chose sur un petit peu du long terme, en tout cas une année entière presque. Ok. Du coup, tu décides de le faire dans quel secteur? Parce que la psychiatrie, on en retrouve dans pas mal de secteurs.
Ouais. Alors, du coup, moi, mon projet, c'était de faire un stage en psychiatrie adulte. Mais finalement, j'ai pas eu tous les choix et toutes les opportunités. J'ai pas trouvé un stage en psychiatrie adulte. Donc, j'ai fait mon stage en pédopsychiatrie. Donc, c'était à mi-temps sur un lieu de consultation okay. pour adolescents et à mi-temps sur un hôpital de jour pour adolescents qui, du coup, était atteint de troubles D'accord. psychiques.
Ok, d'accord. Comment t'abordes ce dernier stage? Comment t'arrives à travailler avec les professionnels, disons, du plutôt secteur médical? Malgré tout, en hôpital de jour, j'imagine que tu croises plus de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, etc. Et comment tu t'y retrouves, du coup?
Eh bien, durant ce stage, du coup, ça confirme vraiment mon choix professionnel de travailler en psychiatrie, même si après, je raconterai que ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai vraiment apprécié. J'avais des représentations, du coup, sur le travail en équipe pluridisciplinaire, et c'était des représentations positives, et ça a pu confirmer mon choix. Et j'ai vraiment trouvé ça effectivement intéressant de travailler avec d'autres corps de métier, de croiser les regards. Et dès ce stage, j'ai l'impression, alors j'avais beaucoup appris sur le social, mais là j'apprends beaucoup sur le médical, le croisement entre le médical et le social, et sur différentes professions, effectivement, infirmiers, donc il y avait des éducateurs spécialisés, il y avait des médecins, toute une équipe, et je trouve ça hyper enrichissant de travailler en équipe pluridisciplinaire. Donc j'apprends beaucoup. Après, pour des raisons institutionnelles, ça a pas été un stage évident parce que, pour le coup, la place de l'assistante sociale dans les deux structures n'était pas forcément reconnue. Donc, en tant que stagiaire, c'était pas très évident. Mais ça confirme quand même mon choix professionnel. Je suis en même temps fascinée par la psychiatrie, les troubles psychiques qui, en plus, s'installent à ce moment-là dès l'adolescence. Et en même temps, par le regard croisé qu'apporte l'équipe pluridisciplinaire.
Du coup, c'est un fonctionnement qui te parle, dans lequel tu te retrouves. Ton sujet de mémoire, est-ce qu'il est en lien avec ton stage de troisième année?
Oui, complètement, parce que durant mon mi-temps, on va dire, à l'hôpital de jour pour adolescents, effectivement, il y avait des adolescents, notamment un qui m'a un petit peu marqué et qui était beaucoup replié sur lui-même, qui sa réalité était différente et lui l'exprimait beaucoup à travers les jeux vidéo. Et je trouvais ça intéressant et j'en avais parlé à la structure. Et c'était pas possible à ce moment-là pour les professionnels d'intégrer la question des jeux vidéo dans le lien qui pouvait être tissé avec cet adolescent. Ça l'a peut-être été plus tard après mon départ, mais sur le moment, c'était pas possible. Et du coup, c'est une question qui m'avait beaucoup intéressée. J'ai fait mon mémoire sur cette question, c'est-à-dire, je sais plus du titre exact, mais en gros, comment un petit peu favoriser le lien social à travers des outils numériques pour des adolescents en souffrance psychique.
Ok, hyper intéressant, du coup, d'essayer de s'appuyer sur son truc à lui pour essayer de rentrer en lien, finalement.
Exactement, ce qui existait pour lui à ce moment-là.
Ok, très bien. Tu termines tes trois années en ayant quel mood un petit peu sur la fin de ces études?
Un mood très positif, déjà de diplômée. J'ai un souvenir... ou contrairement à mes précédentes formations, où c'est vraiment un diplôme qui est professionnalisant. Donc, c'est-à-dire que l'obtention du diplôme, sait que ça va nous inscrire dans une profession, et ça, je le dis parfois aux étudiants que j'accompagne, j'ai un souvenir très très positif du coup de cette annonce de réussite du diplôme. Ok, j'ai un diplôme, mais j'ai un métier aussi. Donc très positif, et je commence très très tôt à travailler. J'ai même commencé quelques jours avant d'obtenir le diplôme. Donc quand j'ai su que j'avais le diplôme, j'étais au travail. Je pouvais pas être sur place, et j'ai commencé, ils m'ont embauchée. C'était un travail d'été, et c'était un foyer d'urgence mère-enfant. Donc une expérience professionnelle qui n'était pas mon projet professionnel de base, mais je suis restée 6 mois entre le diplôme et la fin d'année.
C'était quoi les missions du foyer d'urgence?
Alors, le statut de, du foyer, c'était une MEX, mais c'était, c'est une, du coup, une structure qui accueille en urgence les mamans et leurs enfants, donc avec beaucoup de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, donc des situations complexes. Okay. Et donc c'est un accueil quasi inconditionnel, où du coup, on ne refuse pas les familles, même s'il n'y a plus de place, on trouve des logements à l'hôtel ou en appartement, et avec des familles qui peuvent arriver jour et nuit, donc horaire d'internat.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment une...
Tu t'attaques à quelque chose d'assez dense pour un premier poste.
Oui. Oui, et je savais dès le début qu'il ne resterait pas longtemps. C'était, j'avais encore en tête un voyage, donc c'était un petit peu en amont aussi d'un voyage. Voilà. Je savais que ce serait une expérience courte. Oui, quand même. Parce que d'accord. Oui, c'est, okay. C'est pas une structure évidente du tout, notamment de par la situation d'urgence et par la situation du coup, de violence que rencontrent les familles. Ce qui pour moi a été compliqué dans cette structure et qui je pense l'est aussi pour les autres professionnels, c'est que c'est vraiment considéré comme de l'urgence. Donc c'est un accueil sur 14 nuits et malheureusement, du fait du manque de structure et de dispositifs en France, la violence, elle venait aussi à la fin de ces 14 nuits. Ou quand on n'avait pas de solution, eh bien il y a des familles qui malheureusement peuvent retourner sur le lieu le domicile où se sont passées les violences, parfois à la rue, parfois les 14 jours suffisaient à trouver des solutions en accompagnant les personnes, mais pas toujours le cas. Et donc, c'était très violent, ouais, très très violent.
Cool. Comment tu gères ça en tant que jeune professionnelle, du coup, le manque de solutions sur des profils mère-enfant, du coup?
Je ne sais pas répondre à cette question. Je le fais un peu au jour le jour. Je suis en colère parfois sur ce manque de dispositif et enfin j'y reviendrai après sur la question de la baguette magique. Je vais pas m'auto-spoiler, mais je suis en colère de cette expérience professionnelle parce que je pense que les solutions ne sont pas si compliquées que ça et pour moi, c'est possible à ce moment-là parce que, enfin, c'est assez égoïste, mais parce que je sais que c'est une expérience courte. Mais j'ai déjà un regard sur la question de la protection de l'enfance, où je pense que c'est un secteur très, très intéressant, où on peut apprendre énormément des personnes qu'on accompagne, mais où pour moi, en tout cas, à ce moment de ma vie, c'est aussi très, très violent. De pouvoir accompagner des enfants qui sont victimes de violences et où les dispositifs et les structures sont, enfin, manquent cruellement. Donc, je gère pas vraiment, enfin,
oui, effectivement.
Je fais ce que je peux à ce moment-là, avec beaucoup d'humilité. Je pense que c'est mon nature de ça.
Après cette expérience, tu te diriges sur quoi, du coup? Tu disais un voyage, peut-être, après?
Oui, après, j'ai fait un voyage personnel pendant un an, donc sans travail social. Ça, c'était prévu depuis un petit moment. Et ensuite, quand je rentre de ce voyage, je postule à l'hôpital, en psychiatrie. Donc, j'ai atteint mon objectif.
Ok, donc on lâche pas l'objectif, il est là.
il est atteint, donc je commence à travailler en psychiatrie, à l'hôpital, psychiatrie adulte de secteur. Donc il y a des temps sur le service hospitalier, donc des personnes qui sont hospitalisées, et puis des temps aussi de consultation, donc des personnes qui ont un suivi avec le médecin psychiatre, qui viennent le voir une ou deux fois par mois, et qui viennent voir l'assistante sociale pour des demandes ponctuelles ou pas. Et à ce moment-là, je suis assez surprise parce que j'avais jamais travaillé en psychiatrie adulte et je pensais que c'était quand même un secteur assez où on accompagnait les personnes sur, je sais pas comment le dire, des choses assez précises. Et je me rends compte finalement que le travail social en psychiatrie, c'est un accompagnement clairement global. Parce que les personnes qui ont des troubles psychiatriques ne sont pas forcément reçues dans d'autres services, dans des secteurs un peu plus polyvalents. Donc finalement, le travail social en psychiatrie, c'est un accompagnement global. sur tous les volets. Donc la santé, bien sûr, le logement, les ressources, l'emploi. Donc c'est très riche et très varié. Donc ça me plaît beaucoup.
Parce que du coup, tu dois imaginer un petit peu la sortie, entre guillemets, du patient à terme, même si quand ils arrivent, on te dit pas, j'imagine tout de suite, bon, faut prévoir la sortie, faut tout de suite lui trouver un logement, enfin voilà. Toi, tu sais pas forcément quand est-ce que la personne va être sortant, mais tu as quand même l'opportunité de travailler un peu au long cours sur la préparation de la sortie, l'adaptation peut-être d'un logement, l'adaptation d'une structure d'hébergement qui pourra l'accueillir. Donc, et sur le suivi de santé, j'imagine également, tu t'occupes de tout ça, en fait, de coordonner tout ça.
Oui, exactement. Et c'est là où je me rends compte que c'est une énorme responsabilité. Et du coup, je reste un peu plus d'un an dans ce service de psychiatrie. J'adore le contact et le lien que j'ai avec les patients, qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils viennent en consultation. Mais par contre, ce qui m'a un petit peu dérangée à ce moment-là, c'est que je me sentais un peu seule justement sur le projet de sortie. Je peux pas dire que j'ai ressenti la pression du médecin qui me dit il faut absolument que le patient sorte à tel moment. C'est l'équipe pluridisciplinaire pour le coup est assez à l'écoute des retours que j'avais en tant qu'assistante sociale et du projet de sortie. Mais par contre, ce qui a pu me manquer, c'est justement un travail collectif sur le projet de sortie. C'est-à-dire que il y a le médecin et les infirmiers qui, dans ce service, hein, c'est pas le cas du tout partout, mais qui dans ce service allaient vraiment accompagner le patient sur son traitement, le côté purement médical et ses troubles psy. Et je me suis retrouvée un petit peu seule sur la question du projet de sortie, où il y avait l'équipe qui venait de me demander alors il va où, il fait quoi, et j'aurais aimé que ce soit construit de manière un peu plus collective. Mais ça, c'est aussi les représentations que j'ai pu travailler durant cette expérience professionnelle.
Ok. Et est-ce que toi, du coup, tu as suivi une ou des formations un petit peu spécifiques sur les souffrances psy, la santé mentale, etc. Parce que pour accompagner ces publics-là, pour avoir des échanges avec eux, j'imagine qu'il faut comprendre un petit peu ce qu'elles traversent, en tout cas.
Oui, à ce moment-là,
je l'ai appris sur le tas en t'inspirant de.
À ce moment-là, j'avais suivi aucune formation, à part celle de la formation d'assistante sociale, mais où quand même la question de la psychiatrie, ça reste assez en surface. Donc j'apprends sur le tas en discutant avec les médecins, les équipes, les patients eux-mêmes qui parlent le mieux de leurs symptômes. Et j'apprends, et non, je participe pas à une formation durant cette expérience professionnelle. Ça viendra plus tard, du coup, dans mon parcours.
Ok, d'accord. Bon, tu restes une petite année et après, tu décides.
Et après, du coup, on me propose un poste en XAPA, donc Centre de soins et d'accompagnement de prévention des addictions, en détention. Donc, à la prison de la ville.
En détention, ok.
Ouais. Donc c'est un XAPA pénitentiaire, il y en a, enfin qui travaille qu'en prison, il y en a une dizaine en France. Après dans toutes les prisons, il y a différentes structures qui travaillent les addictions qui peuvent intervenir, mais voilà, des XAPA qui sont à 100% dans le lieu de détention, il y en a pas énormément. Et donc j'intègre, alors déjà je découvre la prison, ce qui n'est pas rien.
Ouais, tu découvres un milieu, ouais.
Je découvre une prison qui est assez récente parce que du coup c'était une prison à la base qui était très ancienne et qui était, quand je suis arrivée, qui venait tout juste d'être faite. Donc les professionnels avec qui je suis venaient de déménager finalement dans cette nouvelle prison qui était située au même endroit. Et je découvre, alors là je suis dans la totale découverte, parce que je découvre la prison, je découvre les addictions. Du coup, ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais j'ai été guidée par un médecin psychiatre qui coordonnait la structure et qui m'a énormément appris. Et j'ai commencé cette expérience professionnelle par une semaine de formation, pour le coup, à Paris, de Fédération Addiction. qui balayait un petit peu toute cette question des addictions, des produits, du rapport que les personnes pouvaient avoir avec le produit. Et ça, ça m'a permis pour le coup de commencer avec un bagage, parce que je pense que ça aurait fait un peu trop découverte au fil de l'expérience.
Ouais, c'est pas évident, le rapport à l'enfermement, le rapport aux produits qu'ils ont du coup en amont, et comment on gère ça, et quels sont les effets un peu secondaires d'un sevrage un peu forcé comme ça du jour au lendemain, comment on prépare la suite aussi.
Oui.
Quand on n'est pas du tout du milieu, ouais, j'imagine que les apprentissages sont nombreux et riches à la fois.
Exactement. Ouais, ça a fait beaucoup au début, mais après cette semaine de formation où j'ai appris, on va dire, la base, c'est vraiment les patients, encore une fois, qui m'ont le plus appris, notamment sur des produits que je ne connaissais pas du tout. Alors, en détention, il y a beaucoup de temporalités différentes, parce que il y a ce qu'on appelle les arrivants. C'est une période qui dure de 1 à 2 semaines, où les personnes incarcérées, souvent n'ont pas de contact avec leur famille, n'ont pas pu avoir accès à leurs cigarettes, à d'autres produits aussi. Donc, c'est une période très, très compliquée. Et après cette période, par contre, il y a quelque chose qui s'installe un petit peu, une espèce d'organisation de lien avec les autres personnes incarcérées et d'accès aux produits. Parce que oui, il y a des produits en détention.
C'était une question que j'avais, du coup, enfin, que j'étais en train de me noter, produit, point d'interrogation, en détention, du coup, est-ce que c'est, alors ma question est peut-être très bête, mais je veux pas donner une fausse représentation que j'ai peut-être, mais est-ce que c'est quelque chose qui est infiltré un peu de manière illégale, ou est-ce qu'il y a du coup des produits qui sont cautionnés parce que il y a une réalité qui est là autour de l'addiction, et que peut-être ça peut être dangereux de tout arrêter d'un coup quand on est incarcéré. Enfin voilà, comment ça se passe un petit peu cet aspect-là, s'il y a des produits en détention?
Alors, le produit, mais du coup, qui est légal, c'est le tabac, hein. Les personnes, il y a une énorme consommation de tabac en détention. Parfois, des personnes qui fument plus quand elles sont en détention qu'à l'extérieur, parce que le temps est long et qu'il faut que le temps passe. Oui. Et que le tabac, parfois, aide à ça. Après, sur la question de l'alcool, il y a un petit peu... Je parle que de mon expérience, hein, bien sûr, pas de toutes les prisons de France, mais uniquement de ce que j'ai pu constater. L'alcool peut être présent, mais en quantité quand même assez restreinte et coûte assez cher. Du coup, c'est quelque chose qui est vraiment accompagné dans le cadre médical, car le manque d'alcool, c'est un des produits où on peut en mourir quand on arrête l'alcool, ça s'appelle le delirium tremens. Donc le sevrage à l'alcool forcé quand on arrive en détention est accompagné par un traitement médicamenteux, pour voilà, éviter tout risque pour la personne qui vient d'être incarcérée. Après, du cannabis, oui, il y a énormément de cannabis en détention. Certains appellent ça la paix sociale. Parce qu'on peut imaginer que s'il n'y avait pas de cannabis en détention, ce serait beaucoup plus compliqué. On est quand même sur quelque chose qui n'est pas très intuitif, d'incarcérer, de positionner dans 9 mètres carrés 2, voire 3 personnes. Et le cannabis aide beaucoup, beaucoup les personnes incarcérées et contribue, voilà, à ce que la plupart des gens appellent la paix sociale. Et on peut imaginer que sans ça, les choses seraient encore plus compliquées. Après, il y a aussi beaucoup de, du coup, sur le côté légal, beaucoup de médicaments. Les personnes qui sont incarcérées ont un certain nombre de traitements qui sont prescrits du coup par les médecins, hein, et suivis, qui les aident aussi à dormir, à parfois accepter une réalité qui est compliquée. Et puis il y a d'autres produits, mais de manière un peu plus un peu moins importante. Il y a quelquefois quelques opiacés, quelquefois de la cocaïne, mais pas énormément.
Ok. Bon. Ben, effectivement, il y a une réalité qui est là, qui existe, et ça serait peut-être se voiler un peu la face de se dire qu'une fois qu'ils sont en détention, les personnes peuvent et doivent tout arrêter tout de suite de façon très très brutale. Ok.
Voilà,
c'est quoi toi tes missions dans le XAPA autour des personnes que tu rencontres?
Alors c'est aussi un accompagnement global, donc on travaille avec les SPIPS qui sont les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui pour le coup travaillent pour le ministère de la Justice. Nous on va travailler sur tout ce qui est de l'ordre de la santé, donc on leur propose de faire un petit peu un état des lieux de leur consommation à l'extérieur, et on a une mission de prévention et de réduction des risques. Donc l'idée c'est de dire ok, dehors vous consommez ça, est-ce que vous aviez déjà un suivi, est-ce que vous savez ce que c'est un XAPA et en quoi on peut vous aider. Et l'idée de la réduction des risques, c'est vraiment de se dire qu'on accueille la personne comme elle vient, avec son histoire de vie et ses consommations, et on va pas prôner à tout prix le sevrage, parce qu'on sait que au fil des années c'est quelque chose qui a pas vraiment fonctionné, et les années de prohibition ça a pas été très très prometteur. Donc on accueille la personne avec ses consommations et on l'invite à consommer autrement en réduisant au maximum les risques pour sa santé. L'outil assez connu de réduction des risques, par exemple pour la cocaïne, ça va être les roules tapis, c'est-à-dire qu'on fournit un petit papier pour que la personne puisse sniffer sa cocaïne proprement et qu'elle évite un risque de transmission d'hépatite, par exemple en partageant sa paille avec un autre consommateur. Mais il y a le préservatif est un outil de réduction des risques également. C'est-à-dire que on a des pratiques, on les accepte et on est à même d'en parler au professionnel qui nous reçoit, mais on va essayer de réduire au maximum les risques dans la visée d'une meilleure santé et d'aller bien. Donc c'est un travail aussi en équipe pluridisciplinaire, parce que du coup on est plusieurs personnes sociales. Il y a des psychologues, le médecin psychiatre, des infirmières, éducateurs spécialisés, et on va faire de l'accompagnement individuel ou collectif. Donc on fait des groupes de prévention et de réduction des risques. On va parler de différents produits, de comment on peut réduire les risques. Il y a le suivi avec le psychologue qui peut permettre de travailler sur différentes choses. Le suivi social pour travailler aussi sur la question de l'environnement pendant la détention, mais aussi à la sortie. Et aussi ce qu'on a appelé des groupes à médias, c'est-à-dire des groupes, je sais pas, ça a pu être dans le passé poterie ou lecture ou théâtre, pour trouver d'autres médias, d'autres moyens d'expression et trouver un petit peu des stratégies parfois pour peut-être décaler la prise de produit ou en tout cas se sentir un peu mieux.
Ok, ouais, c'est assez, encore une fois, c'est assez large et assez complet du coup ce que tu es amené à mener.
Oui.
Ok, est-ce que là, pendant cette première expérience en détention, tu rencontres des situations ou des personnes qui marquent un petit peu ton passage sur ce service?
Oui, à ce moment-là, j'accompagne des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes incarcérées dans cette prison. Et j'ai pas forcément une situation en particulier, mais je pense que ce qui me marque le plus à ce moment-là, effectivement, ce sont les femmes incarcérées, parce que forcément, on projette peut-être plus en tant que femme.
Oui.
Et les femmes aussi amènent beaucoup plus à ce moment-là de ce qu'elles me racontent leur vie avec leurs enfants, et à quel point du coup l'éloignement avec les enfants est compliqué. Les hommes parfois l'amènent aussi, mais beaucoup moins en nombre. Et donc avec l'accompagnement des femmes, il y a très souvent cette question de la parentalité. Et c'est quelque chose qui est assez, qui parfois est violent, en tout cas assez difficile à entendre et à recueillir.
Bien sûr. On peut que l'imaginer, effectivement. Ok, tu restes combien de temps sur ce dispositif-là de XAPA en prison?
Je réfléchis. Je dirais 2 ans, je crois. 2 petites années. 2 ans, et je pense que je serais restée encore quelques années. Mais à ce moment-là, on me propose un poste toujours dans le même centre de détention, mais dans une structure qui prépare la sortie. Donc ça s'appelle structure d'accompagnement à la sortie, qui accueille des personnes, alors pour le coup que des hommes, qui sont en fin de peine et qui du coup peuvent bénéficier d'un accompagnement un peu plus renforcé pour préparer leur sortie. Ce qui me plaît à ce moment-là, c'est déjà de penser d'avoir un peu plus un pied dehors, parce que le côté de l'enfermement est pas forcément évident tous les jours. De penser à la sortie avec les personnes qu'on accompagne. Et c'est aussi une organisation des soins qui est différente, parce que dans l'unité sanitaire où j'étais, il y avait d'un côté la psychiatrie, d'un côté la dicto et d'un côté le somatique, donc tout ce qui s'affaire au corps. Et dans cette nouvelle unité, donc qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus à taille humaine, c'est un accompagnement médical global. Donc en fait, c'est une plus petite équipe qui va prendre en charge le patient dans sa globalité, que ce soit voilà quelque chose de somatique, de psychiatrique ou la question des addictions. Okay. Et pour moi, ça a un petit peu plus de sens à ce moment-là d'accompagner le patient de cette manière. Donc on est des binômes assistante sociale et infirmière, et on accueille les personnes et on fait un petit peu un état des lieux pour le coup de leur santé. Donc c'est un peu mon entrée dans le monde du somatique. D'accord. Parce que j'y connaissais absolument rien. J'avais du coup un peu d'expérience en psychiatrie, un peu d'expérience en addicto, et là j'ai un peu le troisième volet de la question du corps, donc des maladies dont je n'avais jamais entendu parler. Donc j'apprends encore une fois. J'ai l'impression de vraiment à chaque donc c'est des cours d'expérience professionnelle hein que j'ai, mais à chaque fois comme de rajouter une petite ligne, une petite carte et d'apprendre à chaque fois.
Donc, tu complètes
l'expérience en riche.
Exactement. Tu complètes complètement ta professionnalité, en tout cas enfin ton oui, tu as un étayage professionnel sur beaucoup de secteurs qui sont liés plutôt au médical, oui. Le social dans le médical.
Exactement, okay. Tout en restant parce que notre mission du coup principale, c'est vraiment l'accès aux soins. Donc parfois à travers des éléments purement administratifs, c'est-à-dire avoir une carte vitale, une complémentaire santé, aller chez le dentiste. Tout simplement, et puis parfois aller chez le psychologue, aller chez l'addictologue, et on accompagne du coup les personnes voilà de manière complètement globale à ce moment-là. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir en bonne santé?
C'est là actuellement où tu es. Et est-ce que les personnes elles parlent facilement de ce qu'elles ont besoin en termes de santé?
Oui, parce que on a à cœur et on prend du temps avec ces personnes pour leur expliquer que du coup nous on ne travaille pas pour l'administration pénitentiaire mais qu'on travaille pour l'hôpital, et on fait en sorte, je pense, de réfléchir au quotidien notre projet et de permettre aux personnes de pouvoir se sentir libres au sein de l'unité sanitaire. On leur répète assez fréquemment qu'on est soumis au secret professionnel, qu'elles peuvent se sentir libres de parler de ce qui se passe en détention, de tout ce qui peut leur arriver dans leur quotidien. Donc oui, je trouve que ce soit sur leur quotidien de détention ou sur leur problématique de santé, les personnes ont assez de facilité pour parler.
Est-ce que tu penses que c'est important du coup de plus porter la casquette prison et que porter la casquette hôpital, je la fais un peu en raccourci, mais ça change quelque chose dans le lien que tu as avec les personnes. Si tu t'annonces en tant qu'assistante sociale de l'hôpital qui intervient en milieu carcéral et plus l'assistante sociale d'un dispositif de la prison, est-ce que ça change quelque chose?
Oui, pour moi, ça change beaucoup. Après, il faudrait demander aux personnes incarcérées. Ce serait eux qui répondraient le mieux à cette question. En tout cas, pour moi, ça change beaucoup parce que tout le monde accompagne la personne en détention, mais on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Donc vraiment, ça est la question de l'accès aux soins, de la santé, du bien-être, de tout ce qui peut être en rapport avec le soin de la personne. Et d'autres professionnels au sein de la détention ont d'autres objectifs, notamment la prévention de la récidive, qui nous n'est pas dans nos missions. si la personne revient et réincarcérée, on l'accueille une nouvelle fois et puis on lui demande si ses besoins de santé sont les mêmes que la précédente incarcération. Mais la prévention de la récidive n'est pas une de nos missions. Et on n'a pas non plus cette une mission
de
contrôle.
Oui, c'est bien séparé, tu sais.
Oui, on fait en sorte que ce soit séparé. Mmh. Aussi pour voilà pour cette mission de contrôle. Moi, c'est pas du tout, et ça, j'ai vraiment, je tiens beaucoup à le répéter aux personnes que j'accompagne. Je suis pas du tout là pour contrôler, vérifier. Je suis vraiment là pour les accompagner. Au moment, par exemple, quand j'accueille les personnes, je leur demande pourquoi elles sont incarcérées, parce que parfois les faits pour lesquels elles sont incarcérées peuvent m'aider dans la compréhension de leur situation. Mais je n'ai pas de document officiel sur ces raisons, et s'ils veulent, ils peuvent ne pas me répondre, ou parfois ils me disent exactement la vérité, je la prends par d'autres biais, mais c'est pas grave, je fais avec ce que la personne me dit au moment où je la reçois. Et le fait que parfois elle ne veuille pas me répondre, ce qui en soi arrive rarement, mais ça fait aussi partie de son histoire à ce moment-là.
D'accord. Il y a une question qui me vient un petit peu comme ça. Est-ce que l'exercice du secret professionnel, il est un petit peu parfois difficile, ou en tout cas, est-ce que le côté plutôt, le milieu carcéral vient un peu vous solliciter pour savoir ce qui s'est dit auprès de vous, comment va la personne, etc. Enfin. Est-ce que, enfin, tu vois où je veux en venir?
Oui.
L'échange est possible, ou voilà, est-ce que c'est délicat pour vous de pouvoir livrer des éléments sur la personne sans son accord? On imagine bien que non, mais en tout cas, comment tu gères ça un petit peu, toi, le secret professionnel?
Alors, j'ai la chance de travailler au sein d'une équipe pour qui c'est très important, pour l'ensemble des professionnels, cette question du secret médical. Donc, je le gère en équipe, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait compliqué. Et oui, c'est sûr que c'est un travail un petit peu quotidien où on compose avec l'administration pénitentiaire, parce que finalement, les surveillants, ben, on est avec eux toute la journée, on mange avec eux, on partage beaucoup de moments. Mais à partir du moment où ce sont des éléments qui viennent du patient, on leur a expliqué plein de fois, et puis ils le comprennent assez bien finalement, qu'on peut en aucun cas transmettre d'informations. Que la vie du patient, tous les éléments qu'il peut nous transmettre, ne sera en aucun cas révélé. Après, oui, bien sûr que parfois il y a des tentatives, parce qu'on accompagne physiquement parfois les patients sur leur lieu de soins, près de leur domicile. Donc, c'est-à-dire que le juge accorde en commission une permission de sortie pour une après-midi, par exemple, pour que le patient aille chez le dentiste, chez le psychologue, près de son domicile futur. Donc, on passe des après-midi dans des salles d'attente de dentistes, de psychologues, etc. Et donc, on vit des moments qui sont très différents de moments qu'on peut vivre seulement dans un bureau. On prend la voiture ou les transports en commun, et du coup, ce sont des entretiens qui sont très longs. Il se passe beaucoup de choses, c'est très intéressant. Et parfois, quand on revient de ces permissions de sortie, oui, il y a forcément des surveillants qui vont dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a dit, est-ce qu'il a vu sa famille ou pas. Donc oui, il y a beaucoup de tentatives de récolte d'informations. Mais voilà, la facilité, comme je disais, c'est qu'on est très au clair avec mon équipe sur cette question. Donc ça se gère assez bien, heureusement.
Parce que du coup, la particularité de ce service-là, c'est vous n'avez pas de professionnels de santé qui viennent, c'est vraiment... vous qui allez autant accompagner sur la santé que sur une sortie future pour la réhabilitation un peu de la personne dans son espace, dans son environnement. Donc, vous vous attachez à, ben, s'il est de tel quartier, telle ville, à lui faire reprendre les habitudes qu'il avait auprès des professionnels de santé, ou en tout cas, qu'il pourra avoir à sa sortie.
C'est exactement ça. Tu as parfaitement résumé le travail.
Okay.
C'est-à-dire que quand ils arrivent, on va vraiment leur poser la question de leur territoire. Où est-ce qu'ils ont des repères? Par exemple, sur la question du dentiste, parce que les dents, c'est une question très, très présente en détention, parce que on a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu prendre soin de leurs dents durant leur parcours, donc c'est quelque chose qu'on essaie d'initier avec eux. On va leur demander, peut-être qu'ils connaissent un dentiste. Il y a beaucoup, beaucoup de peur d'aller chez le dentiste. On s'imagine pas à quel point c'est compliqué pour les personnes. Donc parfois, peut-être qu'ils sont allés chez un dentiste il y a quelques années, peut-être qu'ils connaissent quelqu'un de leur famille qui connaît un dentiste, qui pourrait les rassurer. On va vraiment faire un état des lieux effectivement de leur santé, de leurs besoins et aussi de leur connaissance du territoire en matière de santé. S'ils connaissent un dentiste, je dis dentiste, mais ça peut être n'importe quel professionnel de santé, bien sûr, auprès duquel ils vont se sentir bien, on va prendre rendez-vous avec eux chez ce professionnel de santé. Après, pour ceux qui en connaissent pas, on a un petit réseau et on peut leur indiquer où se rendre. Mais c'est vraiment la question du territoire. Et j'en parlais dès la première année de formation, c'était quelque chose qui était important et que je retrouve vraiment aujourd'hui dans la pratique professionnelle. C'est-à-dire que le territoire, c'est aussi ce qui fait repère pour la personne. Et on, alors après, c'est dans notre projet, dans nos idéaux, hein, mais on se dit que si, en fait, ce qui se passe souvent en détention, c'est qu'il y a, les soins, ils sont prodigués en détention, mais il y a beaucoup ce qu'on appelle de sorties sèches. C'est-à-dire qu'il y a des soins en détention et à la sortie, les soins, parfois, il y a des orientations vers des services, mais pas toujours, parce qu'on n'a pas toujours le temps de préparer la sortie. Là, on va vraiment travailler en amont et comme tu disais, le but, c'est que vraiment, dans la structure où je suis, il y ait le moins possible de soins et que tous les soins, ils se fassent à l'extérieur, près du domicile de la personne, pour qu'ils soient pérennes. C'est vraiment l'objectif.
Ok, ouais, c'est hyper intéressant de travailler un peu cette réadaptation, en tout cas, à leur environnement pour éviter justement une sortie un peu... sèche de détention, parce qu'on peut imaginer qu'ils sont très très contents de sortir, mais des sorties de détention pas préparées, c'est aussi très très violent en fait.
Exactement.
Parce qu'on est contenu dans un environnement où on a beaucoup de repères, où c'est très rythmé pendant un moment, et ne plus avoir cette contenance et ces repères, c'est d'une violence inouïe, effectivement.
Exactement.
Ok. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant, valorisant, enfin en tout cas, qu'est-ce que tu préfères faire dans ton quotidien de travail et qu'est-ce qui est un petit peu le plus difficile pour toi actuellement ?
Alors le plus gratifiant, je sais pas, j'ai pas trop d'idées, c'est pas, on n'a pas forcément de retour à partir du moment où les personnes sortent de détention, enfin sont libérées. C'est très très rare qu'on ait des nouvelles de ces personnes, même les personnes avec qui on a tissé beaucoup de liens, parce que des personnes réincarcérées ont pu me l'expliquer et me dire que vraiment quand on sort de prison, on laisse tout en prison, même les professionnels, même les personnes avec qui on a tissé des liens, même parfois les objets, on les laisse en détention. Donc on a rarement des nouvelles des personnes qu'on a accompagnées. Donc du coup, la gratification, elle est pas trop présente parce qu'on voit pas trop l'impact qu'on a pu avoir dans l'accompagnement. Après, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que dans le cadre de mon travail, j'ai des temps vraiment diversifiés. Accompagner la personne près de son domicile, parfois on voit les familles, on a vraiment accès à... Parfois on rentre vraiment dans l'intimité des personnes, ça a pu être même assez particulier parfois. Des personnes qui sont incarcérées depuis plusieurs années, qui obtiennent une permission de sortie par le juge pour aller chez un professionnel de santé. Et puis, parfois, leur famille est présente et c'est parfois des personnes qui n'ont pas vu depuis longtemps. Et donc, on est un petit peu spectateur à ce moment-là de ces retrouvailles. Et en même temps, à la fin du rendez-vous, il faut rentrer en détention. Donc, il y a aussi la question de la séparation. Et du coup, c'est très intime de rentrer à ce moment-là dans la vie des personnes. Et en même temps, ça permet des moments où on en parle, où la question de la famille, des liens qu'entretient la personne, du coup, ça donne matière à la discussion. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, d'avoir ces moments à l'extérieur, puis des entretiens en bureau classique, puis pas mal finalement d'activités collectives. Ça donne un travail assez diversifié et assez riche. Du coup, on ne s'ennuie pas trop.
Est-ce que quand tu emmènes les personnes à l'extérieur, est-ce que tu es seule ?
Oui. Oui. Étonné mon entourage au début.
Oui, mais ça m'étonne un petit peu parce que... On peut imaginer plein de choses de l'ordre de la personne, elle peut décider de te faire faux bond au milieu du rendez-vous et du coup, t'es un peu seule avec ça, mais bon, après...
Ça m'est déjà arrivé une fois.
J'avais entendu le « arriver » et je me suis dit...
Pardon, ça m'est arrivé une fois, oui, après c'est un peu, on va dire, les risques du métier. J'ai accompagné une personne à l'hôpital et puis... Quand je me suis retournée, elle n'était plus là. Donc, j'ai dû retourner seule au centre de détention sans la personne détenue. Après, à partir du moment où le juge accorde une permission de sortie à la personne, c'est lui qui en est responsable. Nous, on va vraiment accompagner dans le soin. Et c'est pour ça que c'est important aussi de rappeler qu'on n'a pas cette mission de contrôle, de surveillance. C'est vraiment pas mon métier. Donc ça peut arriver. Ça arrive peut-être encore. J'espère pas. Mais ça peut arriver.
Effectivement, ok.
mais c'est vrai que dans la plupart des centres de détention, donc soit les soins sont prodigués à l'intérieur de la prison, soit il y a ce qu'on appelle des extractions médicales. Quand la personne doit aller à l'hôpital, que les soins sont trop importants pour être faits en prison, du coup, ce sont des surveillants pénitentiaires qui emmènent la personne détenue avec des menottes, la voiture, le gyrophare, enfin tout ce qu'on peut s'imaginer d'une sortie de détention. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surveillant pénitentiaire, il n'y a pas de menottes, c'est la voiture de l'hôpital. C'est très, très différent. Et oui, c'est vrai que ça a pu être surprenant au début.
Ok. Oui, c'est,
on m'a dit, mais c'est
beaucoup
moins. Mais parce que je pense que l'idée, c'est aussi de pouvoir leur faire confiance. Pouvoir faire confiance à des personnes qui ont des parcours de vie souvent chaotiques, avec beaucoup d'abandon. De parcours abandonnique et de pouvoir leur faire confiance à un moment. Alors c'est juste une permission de sortie pour aller chez un professionnel de santé, mais pour moi ça participe au travail de revalorisation qui pour le coup fait partie de nos missions, de pouvoir aussi travailler sur leurs compétences psychosociales et voilà, de leur faire confiance à un moment donné. Je pense que ça c'est un travail qui peut être très efficient avec eux.
Bien sûr, et qui est nécessaire aussi pour déjà leur remettre un pied dans la vie qu'ils avaient, en tout cas, et qu'ils vont avoir pour le futur. Ok. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas forcément abordé avant que je passe sur les quatre questions de la fin ?
Ouais, j'ai pas une anecdote, mais une petite histoire à raconter que je trouvais intéressante il y a pas longtemps avec une collègue infirmière. On a fait un groupe avec des personnes détenues, nos patients. Le thème du groupe c'était la vie sexuelle et affective. Donc on a beaucoup parlé des relations hommes-femmes, de leur manière. Voilà comment ils entretenaient les rapports avec les femmes de leur entourage. Et j'ai trouvé que c'était, ils ont vraiment abordé tout un tas de thèmes, et notamment ce qu'ils ont pu mettre en avant, c'était de dire qu'il y avait deux mondes et deux mondes qui se rencontraient pas. Donc quand ils s'adressaient à moi, ils me faisaient comprendre que je faisais partie du monde normal. Donc je leur ai demandé si eux faisaient partie du monde anormal, et ils m'ont dit oui. Et du coup, eux, ce qu'ils entendaient par là, c'était de dire qu'il y avait le monde, leur monde, où ils avaient grandi dans des quartiers, où il y avait toute une organisation qui était très différente du monde normal dans lequel je pouvais vivre. Et ce que le lien que j'ai fait par rapport à mon parcours, c'est de me dire que moi, travailler à la base dans une prison, qui est du coup un lieu d'enfermement et de privation de liberté, c'était pas spécialement mon projet, parce que c'est quand même des termes qui sont un petit peu à l'encontre de mes valeurs. Mais que finalement, quand je discute avec les personnes que je reçois au quotidien, que ce soit en groupe ou en individuel, j'ai l'impression que dans le travail social, et même dans ma vie privée, ça me permet aussi de rester connectée aux différents mondes qui nous composent. Si on part du principe que je fais partie pour eux du monde normal, peu importe, peut-être que eux, ils ont évolué dans des mondes qui sont différents du mien, et que pour moi, c'est hyper riche d'avoir la possibilité et même la chance de pouvoir discuter avec des personnes qui sont issues de milieux différents et qui du coup m'apportent énormément dans ma connaissance du monde. Voilà,
bien sûr,
le petit côté positif.
Mais évidemment la personne de l'enregistrement d'hier me disait moi je donne mais les enfants qu'elle accueille me donnent 10 fois plus et je trouve que ça se transpose à peu près partout et c'est un peu ce que tu dis en fait, que tu as la chance de pouvoir rencontrer un monde que tu n'aurais pas forcément côtoyé, donc il t'éveille à quelque chose qu'on connaît pas et qu'on n'aurait peut-être pas connu dans d'autres milieux et c'est ça qui est génial.
Oui. Ouais.
Et c'est très challengeant aussi, je trouve, de pouvoir accompagner ce genre de profil de personnes parce que qu'ils puissent dire que toi tu vis dans le monde normal et pas eux, ben ça te donne envie de leur dire qu'ils peuvent vivre dans tous les mondes qu'ils veulent en fait.
Oui, en tout cas qu'on peut se rencontrer sans être complètement naïve et utopiste, mais en tout cas on peut se rencontrer.
Bien sûr. Ok, et ben merci pour. Cette petite anecdote et puis pour ton témoignage qui est fort intéressant je trouve et qui met en lumière un monde qu'on sait qui existe mais qu'on ne côtoie pas de par l'enfermement, donc c'est super chouette d'avoir accès à ça, donc merci à toi. Si ma première question c'est si tu devais faire autre chose dans la vie professionnellement, qu'est-ce que tu choisirais, vers quoi tu t'orienterais?
Alors là, il va falloir me couper au montage parce que j'en ai aucune idée.
ça peut être ça, hein. J'en ai aucune idée.
J'ai l'impression que je ferai pas ça toute ma vie. Ouais. Et en même temps, je vais peut-être me retrouver à l'âge de la retraite à être assistante sociale parce que j'aurais pas eu d'autres idées et d'autres métiers où je me sentirais bien. Donc, je ne sais pas.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur cette question. Ok. Tout à l'heure, tu y as fait référence puisqu'on a minima un petit peu préparé notre échange et je te disais qu'il y aurait la question sur la baguette magique. Mm-hmm. Tu en as parlé au début de ton parcours, oui, de cette baguette magique. Donc, si je te la donnais, qu'est-ce que t'en ferais?
Alors, du coup, ça n'a rien de féerique, mais ce que je pense souvent, c'est que cette baguette magique, c'est de l'argent, tout simplement. J'ai parfois participé à des colloques, des réunions, ou plein de choses où finalement les professionnels de santé vont réfléchir sur la problématique de la santé, de la précarité, de l'urgence, des personnes qui vivent à la rue, de plein de problématiques médicales et sociales qu'on rencontre en France. Et où je me suis souvent dit que c'était complètement hypocrite parce que finalement, des structures où il manque des professionnels de santé, ce sont des recrutements qui pourraient être possibles grâce à des financements. La création de structures, c'est aussi une question d'argent. Et du coup, voilà, moi, ma baguette magique, c'est une mallette de billets.
D'accord. En tout cas, c'est un peu plus de financement sur.
Ouais, je pense que les solutions, on les a. Il y a des professionnels qui sont hyper motivés, qui font énormément de choses et qui finalement, je trouve ça assez hypocrite de la part des pouvoirs publics, parfois de dire qu'on n'a pas les solutions. Alors, je dis pas que l'argent est une solution à tout, pas du tout, hein. Mais parfois, plus de financement, plus de structure, plus de professionnels. Évidemment que ça pourrait être, une clé, pas la clé, mais un élément de réponse pour les personnes.
Ok, merci pour cette réponse. L'invitée précédente, du coup, t'a posé une question. Donc, elle est assistante familiale et elle te demande si toi-même tu étais assistante familiale, que ferais-tu pour faire connaître ce métier?
Très bonne question. Alors, si je prends ma casquette, je ne suis pas assistante familiale, c'est un métier que je connais peu, donc j'ai hâte de pouvoir écouter cette personne. Et si j'étais assistante familiale, du coup, je me dis que peut-être que c'est le cas, hein, je sais pas, mais ça pourrait être intéressant de faire des interventions dans des lycées pour pour raconter le parcours, les missions de la profession et peut-être donner envie à des personnes d'exercer ce métier.
Ok. Bah, je suis plutôt convaincue, effectivement, que peut-être dès la base, entre guillemets, dès le départ, collège, lycée, plus on éveille aux différents métiers, plus les représentations qu'on a au moment de choisir sont plus précises et peuvent aider effectivement une orientation.
Mm-hmm. Ça peut donner lieu à des vocations.
Bien sûr. Eh bien, je te laisse poser ta question au prochain invité.
Donc, toi, dans le métier du travail social que tu effectues au quotidien, qu'est-ce qui a pu manquer dans ta formation pour avoir vraiment toutes les clés pour faire le métier que tu peux aujourd'hui?
C'est une question très intéressante. Non, c'est vraiment une question importante et intéressante. Et puis, peut-être que ça peut un peu... On peut réfléchir à cette question tous, ouais. En fait. Qu'est-ce qui nous a manqué pour transmettre mieux aux étudiants qu'on accueille et qu'on accompagne à devenir des futurs professionnels bien formés, en tout cas préparés au mieux au terrain. Ok, ben je poserai cette question. Merci beaucoup, Angèle, pour ton témoignage, pour le temps que tu as pris pour me répondre et me livrer ton parcours. J'espère que ça pourra mettre un peu en lumière ce monde carcéral, ce milieu carcéral, en tout cas, qu'on connaît peu. J'espère avoir de tes nouvelles sur quel parcours professionnel ce vers quoi tu vas voguer bientôt, vu que tu nous as fait part de tes expériences qui duraient à peu près, je crois,
deux ans pour l'instant, oui.
Voilà, donc peut-être que ça va bientôt changer. Donc
oui, c'est un beau aussi, plus sûr.
On aura des nouvelles.
Oui, merci beaucoup, en tout cas. If you think you're alone, you're not the only one. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.